test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre un jeune Français qui parle de son travail actuel et de ses projets professionnels. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 7. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Mais tu es français, mais tu habites et tu travailles en Autriche. Pourquoi est-ce que tu es à Vienne?
Alors, ma mère est autrichienne et j'ai l'habitude, depuis que je suis tout petit, de venir tous les ans en Autriche. Et depuis que j'ai fait mon stage à l'ambassade de France, entre septembre 2011 et avril 2012, j'avais envie de retourner dans ce pays, mais pour faire un autre métier, celui d'assistant de professeur de français.
Mm-hmm. Et est-ce que tu as fait une formation pour enseigner le français en Autriche?
Non, les conditions pour avoir ce poste étaient assez simples. Il suffisait d'avoir étudié pendant 3 ans n'importe quelle matière à l'université. Et donc moi, j'ai étudié l'histoire, donc j'avais pas forcément besoin d'une formation spéciale pour faire ce métier en France, mm-hmm. en Autriche, pardon.
Et est-ce que tu aimes le travail comme assistant?
Ça te plaît? Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'aime le contact avec les élèves. Mes collègues sont très sympathiques. Et j'apprécie aussi beaucoup la discipline des élèves autrichiens qui sont beaucoup plus disciplinés que les élèves français.
Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire après cette année en Autriche?
Alors, toutes les après-midi, je prépare mon concours pour devenir professeur d'histoire et de géographie. Donc, ce concours, c'est pour enseigner en France, mais aussi pour enseigner dans des lycées français à l'étranger. Donc évidemment, si une place se libère au lycée français de Vienne, je serai le premier intéressé.
D'accord, alors tu voudrais rester. Et si ce n'est pas possible, où est-ce que tu vas travailler ou est-ce que tu voudrais travailler?
Alors si ce n'est pas possible, je rentrerai en France et j'aimerais bien travailler dans le sud de la France, parce que c'est une région où il y a mes parents. Il y a aussi mes amis et c'est aussi une région où le climat est très agréable. Donc si j'avais le choix, je préférerais rester dans le sud de la France plutôt qu'aller à Paris ou dans le nord de la France.
Et est-ce que tu peux choisir le lycée où tu travailles?
Pas le lycée, mais la région. Donc c'est pour ça que j'ai de la chance. Si je réussis mon concours, je suis sûr de rester dans le sud de la France.
Ok, d'accord. Et tu peux y rester toute la vie, si tu veux?
Oui, c'est ça. Si ça se passe bien et mm-hmm. que mes collègues sont contents de moi et que mon directeur n'a pas de critique à mon égard, je peux rester aussi longtemps que je le veux.
Ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence entre les écoles autrichiennes et françaises?
Oui, je trouve que paradoxalement, les élèves autrichiens ont peut-être plus de liberté que les élèves français, mais ils sont quand même plus disciplinés. Et je trouve que la relation avec les professeurs est beaucoup plus positive. Peut-être aussi parce que on garde le même professeur pendant plusieurs années, ce qui aide à instaurer un climat de bonnes relations.
« Mais tu es français, mais tu habites et tu travailles en Autriche. Pourquoi est-ce que tu es à Vienne?
Alors, ma mère est autrichienne et j'ai l'habitude, depuis que je suis tout petit, de venir tous les ans en Autriche. Et depuis que j'ai fait mon stage à l'ambassade de France, entre septembre 2011 et avril 2012, j'avais envie de retourner dans ce pays, mais pour faire un autre métier, celui d'assistant de professeur de français.
Mmh. Et est-ce que tu as fait une formation pour enseigner le français en Autriche?
Non, les conditions pour avoir ce poste étaient assez simples. Il suffisait d'avoir étudié pendant 3 ans n'importe quelle matière à l'université. Et donc moi, j'ai étudié l'histoire, donc pas forcément, j'avais pas forcément besoin d'une formation spéciale pour faire ce métier en France, en Autriche, pardon.
Et est-ce que tu aimes le travail comme assistant?
Oui. Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'aime le contact avec les élèves. Mes collègues sont très sympathiques et j'apprécie aussi beaucoup la discipline des élèves autrichiens qui sont beaucoup plus disciplinés que les élèves français.
Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire après cette année en Autriche?
Alors, toutes les après-midi, je prépare mon concours pour devenir professeur d'histoire et de géographie. Donc, ce concours, c'est pour enseigner en France, mais aussi pour enseigner dans des lycées français à l'étranger. Donc, évidemment, si une place se libère au lycée français de Vienne, je serai le premier intéressé.
D'accord. Alors, tu voudrais rester. Et si ce n'est pas possible, où est-ce que tu vas travailler ou est-ce que tu voudrais travailler?
Alors, si ce n'est pas possible, je rentrerai en France et j'aimerais bien travailler dans le sud de la France, parce que c'est une région où il y a mes parents, il y a aussi mes amis et c'est aussi une région où le climat est très agréable. Donc, si j'avais le choix, je préférerais rester dans le sud de la France plutôt qu'aller à Paris ou dans le nord de la France.
Et est-ce que tu peux choisir le lycée où tu travailles?
Pas le lycée, mais la région. Donc, c'est pour ça que j'ai de la chance. Si je réussis mon concours, je suis sûr de rester dans le sud de la France.
Ok, d'accord. Et tu peux y rester toute la vie si tu veux?
Oui, c'est ça. Si ça se passe bien et que mes collègues sont contents de moi et que mon directeur n'a pas de critique à mon égard, je peux rester aussi longtemps que je le veux.
Ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence entre les écoles autrichienne et française?
Oui, je trouve que paradoxalement, les élèves autrichiens ont peut-être plus de liberté que les élèves français, mais ils sont quand même plus disciplinés. Et je trouve que la relation avec les professeurs est beaucoup plus positive. Peut-être aussi parce que on garde le même professeur pendant plusieurs années, ce qui aide à instaurer un climat de bonnes relations.
Exercice 2. Vous allez entendre une jeune femme parler de ses vacances à La Réunion. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 6 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Estelle.
Bonjour Natacha.
C'est gentil d'être avec moi. Est-ce que tu pourrais me parler de ton voyage à La Réunion, s'il te plaît?
Oui, volontiers. C'était des vacances fantastiques. Alors, je suis partie à La Réunion pendant 3 semaines. Et en fait, j'ai choisi cette destination parce que ma cousine habite là-bas depuis maintenant 8 ans à peu près. Elle est installée là-bas et elle y travaille aussi. Et donc j'ai choisi d'aller la voir. Et c'est une île qui n'est pas très grande, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-bas. Alors je te raconte un petit peu.
Oui, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Alors c'est sympa parce que c'est une île donc, qui est dans l'océan Indien. Et il y a à la fois la mer et la montagne. Donc les paysages sont très très variés. Et vraiment, c'est très agréable pour les vacances. Alors moi, j'y suis allée au mois de juillet, hein, pendant les grandes vacances. Donc là-bas, c'est l'hiver. Alors l'hiver, ça va, c'est pas trop désagréable. Il faisait entre 20 et 25 degrés. Mais ça dépend en fait si on est plutôt en bas à la plage ou dans la montagne.
À la montagne, il fait plus frais.
Il fait plus frais, il peut même neiger parfois. Hein. Il y a quelques flocons de temps en temps. Mais donc il peut faire froid dans les hauteurs, donc il faut toujours se couvrir. Donc nous sommes arrivés, nous avons loué une voiture, parce que c'est quand même plus pratique. Le réseau des transports publics n'est pas encore optimal à La Réunion. Et la voiture permet surtout d'accéder à la montagne, d'accéder à des sites qui sont un peu plus isolés. Donc qu'est-ce qu'on a visité ? On a visité d'abord, il faut bien le dire, les montagnes. Et on a fait beaucoup, beaucoup de randonnées. En fait, à La Réunion, il y a 3 cirques. Alors, un cirque, c'est comme un ancien volcan qui est éteint, qui n'est plus actif. Qui n'est plus actif, même s'il y a un volcan actif, je te raconterai après. Donc, il y a 3 cirques où on peut faire beaucoup de randonnées. Et donc, on a fait les 3, quasiment. Alors, il y en a un qui est très vert, par exemple, avec... où il pleut plus.
Bonjour Estelle.
Bonjour Natacha.
C'est gentil d'être avec moi. Est-ce que tu pourrais me parler de ton voyage à La Réunion, s'il te plaît?
Oui, volontiers. C'était des vacances fantastiques. Alors, je suis partie à La Réunion pendant 3 semaines. Et en fait, j'ai choisi cette destination parce que ma cousine habite là-bas depuis maintenant 8 ans à peu près. Elle est installée là-bas et elle y travaille aussi. Et donc j'ai choisi d'aller la voir. Et c'est une île qui n'est pas très grande, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-bas. Alors je te raconte un petit peu.
Oui, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Alors c'est sympa parce que c'est une île donc qui est dans l'océan Indien. Et il y a à la fois la mer et la montagne. Donc les paysages sont très très variés et vraiment c'est très agréable pour les vacances. Alors moi, j'y suis allée au mois de juillet, hein, pendant les grandes vacances. Donc là-bas, c'est l'hiver. Alors l'hiver, ça va, c'est pas trop désagréable. Il faisait entre 20 et 25 degrés. Hein, mais ça dépend en fait si on est plutôt en bas à la plage ou dans la montagne.
À la montagne, il fait plus frais.
Il fait plus frais, il peut même neiger parfois. Hein, il y a quelques flocons de temps en temps. Mais donc il peut faire froid dans les hauteurs, donc il faut toujours... se couvrir. Donc nous sommes arrivés, nous avons loué une voiture, parce que c'est quand même plus pratique, le réseau des transports publics n'est pas encore optimal à La Réunion, et la voiture permet surtout d'accéder à la montagne, d'accéder à des sites qui sont un peu plus isolés. Donc qu'est-ce qu'on a visité ? On a visité d'abord, il faut bien le dire, les montagnes, et on a fait beaucoup beaucoup de randonnées. En fait, à La Réunion, il y a 3 cirques. Alors, un cirque, c'est comme un ancien volcan qui n'est plus actif, même s'il y a un volcan actif, je te raconterai après. Donc, il y a 3 cirques où on peut faire beaucoup de randonnées. Et donc, on a fait les 3, quasiment. Alors, il y en a un qui est très vert, par exemple, où il pleut plus.
Exercice 3. Vous allez entendre un Français parler de son expérience dans une ville espagnole. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Renaud, c'est très gentil d'être avec moi ce matin et tu vas nous parler un petit peu de ton expérience à Barcelone.
Oui, bonjour Martine, merci de me recevoir.
Alors pourquoi es-tu allée à Barcelone ?
Mais je savais que Barcelone était une très belle ville, elle est située entre la mer et la montagne, l'architecture est tout simplement incroyable, il fait beau tout le temps, le soleil brille presque toute l'année. Et voilà, donc je suis parti à Barcelone, je cherchais un peu l'aventure. Vous savez, je suis parti à Barcelone, mais je ne parlais pas un mot d'espagnol.
Ah bah c'est courageux. Comment as-tu fait pour trouver du travail ?
Oui, alors le premier travail que j'ai trouvé, c'était dans un restaurant touristique. Il a attiré mon attention parce que sur la vitrine, il y avait marqué « huître » en espagnol. Et vous savez, je sais ouvrir les huîtres. Donc je suis allé dans ce restaurant avec mon couteau à huîtres dans une main et mon CV dans l'autre. J'ai dit, je sais ouvrir les huîtres, je suis français. Ils m'ont dit, bah écoutez, montrez-nous, comment faites-vous ? J'ai ouvert 4 ou 5 huîtres, ils m'ont dit, waouh, demain, on vous engage. C'est comme ça que j'ai commencé.
Ah bah bravo ! Tu as continué dans la restauration ?
Oui, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans la restauration, dans divers bars ou restaurants, ce qui m'a permis d'apprendre la langue et aujourd'hui de la parler couramment.
Remarquable. Et tu étais logé comment ?
Alors, j'habitais dans un grand appartement en colocation. Alors, c'était très original. J'habitais avec 2 Argentins et une Autrichienne. On habitait un quartier très, très sympa, un quartier dans le centre. Et alors, il se trouve à 2 pas de la cathédrale. Ce quartier est très, très jeune. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de bars, de restaurants. Non, non, c'était vraiment une expérience très, très sympa. Et puis en plus, l'appartement se situe à 10 minutes de la plage en vélo.
C'est fantastique. Et puis, la vie est différente à Barcelone, j'imagine.
Ah oui, oui, la vie est différente. Disons qu'il y a une vie nocturne très, très intense. C'est vraiment sympa, c'est quelque chose qu'il faut connaître, quelque chose qu'il faut vivre. Donc je recommande à tout le monde de passer quelques temps à l'étranger, disons pour s'ouvrir l'esprit et connaître d'autres cultures. Et en plus, si avec ça on peut apprendre une langue étrangère, c'est d'autant mieux.
Tu es resté combien de temps ?
En tout, je suis resté 5 ans à Barcelone.
Très bien. Alors tu connais bien la ville, tu connais aussi bien le pays, j'imagine.
Oui, je connais bien la ville. Le pays, évidemment, j'ai eu la possibilité de...
Bonjour Renaud, c'est très gentil d'être avec moi ce matin. Et tu vas nous parler un petit peu de ton expérience à Barcelone.
Oui, bonjour Martine, merci de me recevoir.
Alors, pourquoi es-tu allée à Barcelone ?
Mais je savais que Barcelone était une très belle ville. Elle est située entre la mer et la montagne. L'architecture est tout simplement incroyable. Il fait beau tout le temps, le soleil brille presque toute l'année. Et voilà, donc je suis parti à Barcelone, je cherchais un peu l'aventure. Vous savez, je suis parti à Barcelone, mais je ne parlais pas un mot d'espagnol.
Ah bah c'est courageux. Comment as-tu fait pour trouver du travail ?
Oui, alors le premier travail que j'ai trouvé, c'était dans un restaurant touristique. Il a attiré mon attention parce que sur la vitrine, il y avait marqué « huître » en espagnol. Et vous savez, je sais ouvrir les huîtres. Donc je suis allé dans ce restaurant avec mon couteau à huîtres dans une main et mon CV dans l'autre. J'ai dit « je sais ouvrir les huîtres, je suis français ». Ils m'ont dit bah, « écoutez, montrez-nous, comment faites-vous » J'ai ouvert 4 ou 5 huîtres. Ils m'ont dit « waouh, demain, on vous engage ». C'est comme ça que j'ai commencé.
Ah bah bravo ! Tu as continué dans la restauration ?
Oui, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans la restauration, dans divers bars ou restaurants, ce qui m'a permis d'apprendre la langue et aujourd'hui de la parler couramment.
Remarquable ! Et tu étais logé comment ?
Alors, j'habitais dans un grand appartement en colocation. Alors, c'était très original. J'habitais avec 2 Argentins et une Autrichienne. On habitait un quartier très, très sympa, un quartier dans le centre. Et alors, il se trouve à 2 pas de la cathédrale. Ce quartier est très, très jeune. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de bars, de restaurants. Non, c'était vraiment une expérience très, très sympa. Et puis en plus, l'appartement se situe à 10 minutes de la plage en vélo.
C'est fantastique. Et puis la vie est différente à Barcelone, j'imagine.
Ah oui, la vie est différente. Disons qu'il y a une vie nocturne très très intense. C'est vraiment sympa, c'est quelque chose qu'il faut connaître, quelque chose qu'il faut vivre. Donc je recommande à tout le monde de passer quelques temps à l'étranger, disons pour s'ouvrir l'esprit et connaître d'autres cultures. Et en plus, si avec ça on peut apprendre une langue étrangère, c'est d'autant mieux.
Tu es resté combien de temps ?
En tout, je suis resté 5 ans à Barcelone.
Très bien. Alors tu connais bien la ville, tu connais aussi bien le pays, j'imagine.
Oui, je connais bien la ville. Le pays, évidemment, j'ai eu la possibilité de...
Exercice 4. Vous allez entendre l'écrivain Éric Sanvoisin parler d'un de ses livres pendant un séjour en Autriche. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour, je m'appelle Éric Sanvoisin et je suis écrivain, auteur de livres pour enfants en France. J'écris des livres pour les enfants de 8-9 ans et aussi des romans pour les adolescents. D'ailleurs, un de mes romans a été sélectionné pour le prix des lycéens autrichiens, ce qui m'a permis de découvrir votre beau pays. Je voulais plutôt vous parler d'un autre livre qui est, en quelque sorte, mon best-seller, mon livre le plus connu en France, qui n'est pas traduit en allemand, mais qui par contre a été traduit en anglais aux États-Unis. Le buveur d'encre, c'est un personnage fantastique, un peu particulier, qui est un ancien vampire qui est devenu allergique au sang, c'est-à-dire qu'il ne peut plus boire de sang. Donc, pour se nourrir maintenant, il a décidé de boire les livres. Il prend une paille, il la plante dans un livre et il boit l'histoire. Au début du premier roman qui s'appelle Le Puveur d'encre, ce personnage qui a pour nom Draculivre, un petit hommage à Dracula, rencontre un petit garçon dans une librairie qui est caché sous les livres. C'est en fait le fils du libraire. Et ce fils de libraire déteste la lecture et les livres. Ce fils de libraire qui s'appelle Odilon va être intrigué par le comportement de ce drôle de personnage qui flotte au-dessus du sol, un petit peu comme un fantôme. Et il va l'observer et s'apercevoir qu'il fait de drôles de choses avec les livres. Une fois que le personnage est parti, Odilon s'aperçoit que sur le livre que Draculivre a consulté, il n'y a plus que des pages blanches. À une autre occasion, ce personnage va revenir et Odilon va le suivre pour savoir un petit peu quel est son secret. Et il va s'apercevoir que Draculivre habite dans un cimetière, comme le vampire qu'il a été depuis très très longtemps. Et il va le suivre jusqu'au fond d'une crypte où Draculivre va s'apercevoir de la présence de Odilon et va le mordre. Et en le mordant, puisqu'il a à la place des dents, il a des plumes qui permettent d'écrire. En le mordant, il va écrire sur le bras d'Odilon son nom, Draculivre. Bonjour, je m'appelle Eric Sanvoisin et je suis écrivain, auteur de livres pour enfants en France. J'écris des livres pour les enfants de 8-9 ans et aussi des romans pour les adolescents. D'ailleurs, un de mes romans a été sélectionné pour le prix des lycéens autrichiens, ce qui m'a permis de découvrir votre beau pays. Je voulais plutôt vous parler d'un autre livre qui est, en quelque sorte, mon best-seller, mon livre le plus connu en France, qui n'est pas traduit en allemand, mais qui par contre a été traduit en anglais aux États-Unis. Le buveur d'encre, c'est un personnage fantastique, un peu particulier, qui est un ancien vampire qui est devenu allergique au sang, c'est-à-dire qu'il ne peut plus boire de sang. Donc, pour se nourrir maintenant, il a décidé de boire les livres. Il prend une paille, il la plante dans un livre et il boit l'histoire. Au début du premier roman qui s'appelle Le Puveur d'encre, ce personnage qui a pour nom Draculivre, un petit hommage à Dracula, rencontre un petit garçon dans une librairie qui est caché sous les livres. C'est en fait le fils du libraire. Et ce fils de libraire déteste la lecture et les livres. Ce fils de libraire qui s'appelle Odilon va être intrigué par le comportement de ce drôle de personnage qui flotte au-dessus du sol, un petit peu comme un fantôme. Et il va l'observer et s'apercevoir qu'il fait de drôles de choses avec les livres. Une fois que le personnage est parti, Odilon s'aperçoit que sur le livre que Draculivre a consulté, il n'y a plus que des pages blanches. À une autre occasion, ce personnage va revenir et Odilon va le suivre pour savoir un petit peu quel est son secret. Et il va s'apercevoir que Draculivre habite dans un cimetière, comme le vampire qu'il a été depuis très très longtemps. Et il va le suivre jusqu'au fond d'une crypte, où Draculivre va s'apercevoir de la présence de Lyon et va le mordre. Et en le mordant, puisqu'il a à la place des dents, il a des plumes qui permettent d'écrire. En le mordant, il va écrire sur le bras d'Odilon son nom, Draculivre.
C'est la fin du test de compréhension orale.